Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live. Nous sommes le 16 septembre 2021 et entre la journée du 14 où on était au bord de la dépression nerveuse et la journée du 16 où on est au bord de l'euphorie totale en fin de séance, on peut se demander qu'est-ce qui s'est passé entre deux. Je vous ai fait toute une théorie hier sur le CPI, le PPI, les relations entre la production, les coûts de production et le fait qu'on pouvait pas répercuter les coûts de production sur la consommation parce que ça pouvait poser problème et surtout que les consommateurs étaient plus prêts à payer. Et puis hier, eh bien, soudainement, tout a changé. Alors, tout a changé tout simplement sur un chiffre. En fait, la production industrielle américaine était meilleure qu'attendue. Alors, c'était pas non plus 14%, hein. Puis à côté, on peut regarder que la production industrielle en Chine, elle est dégueulasse. On peut regarder aussi que les chiffres économiques des exportations au Japon sont catastrophiques. Mais la production industrielle aux États-Unis est exceptionnelle, fantastique, magnifique, mirifique, extraordinaire, c'est génial. Donc du coup, en fait, le marché, il a fait exactement ce qu'on aurait pu imaginer dans un cours d'analyse technique. Le marché est tombé durant la séance, entraînant avec lui tous les marchés européens qui sont partis limite en panique, pour aller chercher la moyenne mobile des 50 jours. Vous voyez la petite ligne bleue qu'on voit sur le graphique. On a tapé avant-hier dessus, hier on a tapé dessus, et ça nous a suffi pour dire maintenant, ça suffit, et on rachète. Du coup, on a fait ce qu'on appelle un 180, un U-turn, et ram, le marché est reparti comme un malade mental pour terminer quasiment au plus haut de la séance, et on a presque envie de dire pour aller au plus haut de tous les temps demain soir. Alors ce chiffre de la production industrielle était clairement positif, c'est une bonne nouvelle, soit, mais enfin c'était pas non plus génial, extraordinaire, fantastique, mais c'est juste qu'on a tout d'un coup, on a shifté, modifié notre manière de penser. Alors ça, on est très très fort dans le monde de la finance, c'est justement pour changer d'attitude. Alors autant avant, on avait envie de s'ouvrir les veines, et puis de se dire, ouais, cette fois c'est fini, il y avait que des mauvaises nouvelles, que des gourous qui venaient dire qu'on allait perdre 6, 7, 8, 10, 12, 14, 32, 54% d'ici les 3 prochains mois. Et puis alors là, tout d'un coup, non seulement on tourne la veste, mais alors en plein milieu de la séance, on a JP Morgan qui se pointe la gueule enfarinée et qui dit « Oui, alors nous, on pense que le marché va encore prendre au moins 6% d'ici la fin de la fin de l'année, d'ici Noël. » Donc voilà, en fait, au moment où on pense que tout va mal, il y a de nouveau tout qui tourne. Et puis alors, comme par hasard, hein, on a cette capacité à voir que les bonnes choses quand ça va bien, que les mauvaises choses quand ça va mal. On était au bord de la dépression nerveuse il y a 48 heures, mais aujourd'hui, tout a l'air d'aller pour le mieux dans le meilleur des mondes, sauf peut-être en Asie, parce que ça continue à être un sacré bordel pour l'instant. Oui, pendant que les États-Unis repartent à l'assaut des plus hauts, que l'Europe se demande ce matin s'ils doivent également repartir aussi à l'assaut, à la hausse en tous les cas. Par exemple, le CAC 40 s'est arrêté juste où il fallait également. Le DAX, on sait pas trop, mais pour l'instant, vu qu'ils avaient un peu de retard hier, on peut espérer que ça monte aujourd'hui. Les futurs américains ne font pas grand-chose, sont légèrement en négatif ce matin. Mais encore une fois, on se concentre à nouveau sur la parce que tout ne va pas très bien là-bas. Alors, tout d'abord, en Asie, on a des mauvais chiffres économiques au Japon. C'est la première fois que le Japon commence à vraiment rebaisser depuis. Les chiffres étaient nettement en dessous des attentes. Il y a toujours des exportations, soit, mais les chiffres étaient nettement en dessous des attentes. Et puis en Chine, alors visiblement, maintenant, le gouvernement chinois a décidé de s'attaquer aux casinos. Donc, on avait cet endroit vers Hong Kong qui s'appelle Macao, où il y a plein de casinos, où c'était un petit peu un no man's land, et puis le Far West de l'époque. Tout le monde faisait ce qu'il voulait, et puis alors là, tout d'un coup, le gouvernement chinois veut s'en mêler. Alors, c'est pas très bon pour les casinos, mais surtout, ce qu'on comprend vraiment pas, c'est la politique de Xi Jinping, et qu'est-ce qu'il cherche à faire, puisqu'on a l'impression qu'il veut juste dégoûter les Occidentaux de venir dans cette région du monde, repousser tout le monde dehors, empêcher les investisseurs étrangers. On comprend pas vraiment sa stratégie, parce qu'il est en train de s'attaquer à tout le monde dans tous les sens. Depuis qu'il a commencé à attaquer les voitures type les taxis comme Didi, ils ont perdu 30% de leurs clients, Didi, juste parce que le gouvernement veut choper les données des clients, donc du coup ils prennent plus le taxi, en tout cas plus ceci. Donc du coup, ça c'est le premier coup. Après, il a fait les écoles, Alibaba, et maintenant il s'attaque au casino. On comprend vraiment pas où il veut en aller, le mec il a juste pété les plombs. C'est vraiment très très mystérieux. Pendant ce temps, les Américains, les Australiens, les Anglais sont en train de créer un espèce de pacte militaire pour se protéger de l'expansion militaire chinoise dans la région. C'est pas non plus une super bonne nouvelle. Toujours est-il qu'aujourd'hui, la journée commence en bain de sang dans l'Asie, 0,7-0,8% de baisse sur le Nikkei, pareil en Chine, et puis Macao, enfin Hong Kong, se prend près de 2% dans la tête, parce que tous les titres des casinos se font allumer comme aux États-Unis hier soir d'ailleurs. Donc voilà, en ce qui concerne le marché américain, on a tourné la veste pour l'instant. On a l'impression qu'on est reparti dans une nouvelle tendance haussière après être allé juste chercher le point d'inflexion qu'on voulait, à savoir la moyenne des 50 jours. Maintenant, on repart gentiment. Par contre, c'est pas forcément évident sur l'Asie. On a quand même un petit frein de ce côté-là, mais en même temps, c'est pas l'Asie qui va nous empêcher de retourner au plus haut tous les temps. Le feeling a complètement changé dans la tête des investisseurs américains. Donc ça, c'est plutôt la bonne nouvelle de la journée, pourvu que ça dure. Pour ce qui concerne l'Europe, on notera encore un espèce de, pas bain de sang, mais j'ai la grosse pression vendeuse de nouveau sur les boîtes comme le luxe, comme LVMH, comme Hermès, comme Kering, parce que de nouveau, on voit que les chiffres du Covid, ça s'améliore pas en Chine. Alors, c'est un peu pareil en Occident, mais pour l'instant, on s'en fout, on est passé à autre chose. Donc, les chiffres du Covid, ça s'améliore pas forcément en Chine. Donc, on se dit, les Chinois, ils vont plus consommer du tout. C'est un peu la bonne vieille théorie de ces dernières semaines. Hein. Les Chinois, les riches Chinois ne vont plus jamais consommer, vont plus jamais acheter un sac Vuitton, c'est terminé. Donc du coup, voilà, pression sur les luxes de nouveau, sur le luxe en général de nouveau. Je pense encore une fois qu'il faut surveiller très attentivement ce secteur. Il y aura des opportunités. Pour l'instant, c'est pas la bonne tendance, mais ça peut tourner très vite. On l'a vu typiquement hier soir. Donc grosse pression en Europe sur le luxe, grosse hésitation par rapport à la problématique chinoise. Encore une fois, la nouvelle du jour encore et encore. Ça fait 3 jours qu'on en parle, que tous les médias en parlent. Donc je suis obligé d'en parler. J'en ai parlé hier, j'en reparle aujourd'hui. On Running est donc sorti en IPO hier. Souvenez-vous, pricé à 24. Ça a ouvert à 36 et des poussières. Ça a été jusqu'à 38$. Ça clôture à 35$ en hausse de 45% par rapport au prix d'émission. C'est un carton plein pour Roger Federer. On sait évidemment pas à quel niveau il est rentré à l'époque. On sait qu'il est rentré en 2019. En 2020, on évaluait à peu près la valorisation de On Running à 2 milliards. Là, on doit friser en termes de valorisation quelque chose comme 7, 8 milliards de valorisation, voire 9 milliards. Donc, autant vous dire que s'il est rentré en 2019, il a fait x5, x6, je sais pas. Mais en tout cas, ça devrait lui permettre de finir complètement ses travaux et de peaufiner sa maison dans la région de Zurich. En tous les cas, c'est un carton plein pour On Running. C'est un très beau succès pour l'instant. À suivre attentivement ces prochains temps. Pas mal de gens commençaient à dire que c'était déjà trop cher. Donc, il faudra voir un peu comment ça va se traiter ces prochains jours. Néanmoins, On Running a des grosses ambitions. Ils sont très agressifs pour leur développement. Ils ont un très, très bon soutien au niveau du marketing. Il faudra suivre attentivement. J'ai envie de dire que j'aimerais bien qu'elle revienne un petit peu pour avoir l'opportunité d'en racheter, parce qu'on est peut-être parti un peu trop fort. À surveiller ces prochains temps. En tout cas, on va en reparler beaucoup, bien entendu. Deux choses encore à aborder. Le Bitcoin, on a Ray Dalio, le plus gros hedge fund manager du monde, qui a dit hier que le Bitcoin allait probablement se faire buter, tuer, massacrer, assassiner par les gouvernements s'il commençait à trouver ça comme une menace, si ça marchait trop bien. Donc si, bien sûr, donc il n'en sait foutrement rien. Mais il pense qu'effectivement, si le Bitcoin devenait trop important, il se pourrait que les gouvernements viennent s'en mêler et l'extermine. On se demande comment c'est possible à l'heure actuelle, mais enfin bref, peu importe. Donc des commentaires négatifs de la part de Ray Dalio, et quand vous regardez la performance du Bitcoin aujourd'hui, et bien clairement on se fout totalement des avis de Ray Dalio. Le Bitcoin reprend 3 ou 3,5% aujourd'hui, l'Ethereum est en hausse de 7%, donc tout va bien de ce côté-là. On a vraiment l'impression que les gars de l'ancienne finance, quand ils viennent donner leurs avis sur les cryptos, ça n'a strictement aucun effet. Toujours dans la thématique des autres investissements, on doit parler aujourd'hui de l'or et du pétrole. Alors l'or ne fout rien, il y a un jour il passe en dessus des 1800, on se dit c'est parti, il revient en dessous, on dit bah non finalement c'est pas parti. Bref, il tourne autour de ces 1800 sans vraiment avoir une grande conviction. On se rapproche globalement d'un triangle qui est en train de se fermer. On peut espérer qu'à un moment ou un autre il va partir et prendre une vraie direction. On espère quand même, parce que là ça devient juste extrêmement pénible. Et de l'autre côté, eh bien, on peut faire un parallèle avec le pétrole qui, souvenez-vous, il y a quelques semaines en arrière, on n'en voulait plus du pétrole parce que les Saoudiens allaient rouvrir les robinets, parce que la croissance ralentissait, le pic de croissance avait été fait. En plus, on avait peur du Covid, il y avait des angoisses autour de tout ça. Et aujourd'hui, le pétrole est en train à péter les 70$, il est à 70, bientôt à 73$. Il a cassé sa tendance baissière dans laquelle on était depuis quelques temps. Clairement, le baril est en train de partir en direction des 76,50. Et si on casse les 76,50, yalla, après ça ira où il est, où ça veut, quand ça veut, mais on n'arrivera probablement plus à l'arrêter. Et c'est vrai que tout le monde est en train de tourner bullish dessus. En tout cas, techniquement, c'est parfait. On a eu donc une banque américaine qui est venue hier pour dire que ça allait à 100$. Donc, bref, il y a un bullishness qui est en train de tourner autour du baril. J'attends avec impatience qu'on atteigne les 80. Puis ensuite, les 95$ par là autour, et là, tout le monde va venir, ouais, ça va à 300, et c'est là qu'il faudra commencer à shorter le pétrole. La question du jour, j'y ai déjà répondu, sauf erreur. Il me semble, enfin c'est pas très important, je vais en parler quand même. Je pense que c'est important de revenir à chaque fois sur le sujet. C'est quelqu'un qui me dit qu'il a des actions d'une société française qui fait du pétrole, mais qui est en train de changer un petit peu de son business et de venir un peu plus dans l'énergie verte. Son nom commence par T et finit par Tal. Et puis donc globalement, il me demande comment ça se fait que finalement, quand on voit justement un rebond assez massif de la part du baril, comment ça se fait qu'il n'y ait pas une corrélation plus dynamique par rapport aux sociétés pétrolières. Alors c'est toujours la grande question, hein. C'est un petit peu comme quand vous faites le plein. Vous aurez remarqué que quand vous faites le plein d'essence et que le baril augmente, alors on vous répercute immédiatement la hausse, hein. Le baril, il passe de 65 à 75. Vous allez à la pompe, ça sera plus cher immédiatement. Par contre, dans l'autre sens, on vous dira, si le baril se pète la figure, on dira, ah oui, mais tu comprends, nous, on a acheté plein de stocks de pétrole à 75, donc on va continuer à te les fourguer très cher pendant que le baril baisse, parce que nous, on doit juste vider les stocks qu'on a payés très cher. Bon, ça, c'est l'histoire des stations d'essence. Pour ce qui est des sociétés pétrolières, en fait, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, en général, les sociétés pétrolières, il y en a d'abord, certaines, elles sont toutes différentes, hein. Vous avez ce qu'on appelle les big ones, enfin, les types comme Exxon, comme Total, comme Royal Dutch, qui font à peu près tout, donc qui font l'extraction, qui font du raffinage, de la distribution, qui font un petit peu tout. Et eux, si vous voulez, les différents business qu'ils ont, ils ont des marges qui sont différentes. C'est-à-dire que des fois, c'est pas forcément un avantage pour eux que le baril monte très vite. Donc, ils mettent un temps certain pour commencer à gagner plus d'argent. Après, vous avez d'autres sociétés comme ceux qui font l'extraction, purement de l'extraction et de la recherche, par exemple. Eux, ils ont besoin que le pétrole soit très fort. Parce qu'ils peuvent, plus c'est fort, plus ils peuvent aller fort et très bas, parce que ça coûte plus cher, plus ils peuvent aussi augmenter leurs bénéfices. Donc du coup, il n'y a pas une corrélation directe. D'abord, il faut bien comprendre qu'une boîte qui achète du pétrole sous forme de baril, après, faut le transporter, faut le raffiner, faut le distribuer. Donc il y a des coûts là-dedans qui s'amoncent. Donc on peut pas non plus dire, ah mais plus le pétrole monte, plus les mecs ils vont vendre très cher leur baril, et donc ils vont faire de l'argent. C'est pas comme ça que ça marche. Il y a une espèce de convexité, c'est-à-dire que ça met du temps à suivre. Si vous avez le baril qui s'envole, les pétrolières vont monter, mais ça va prendre beaucoup plus de temps. Et en fonction de leur secteur et de leur business, certains vont même prendre encore plus de temps, alors que d'autres seront beaucoup plus collés directement au prix du baril. Mais c'est pas aussi simple que ça. Et surtout sur les big ones, qui ont un gros avantage, c'est qu'ils payent des gros dividendes. Eux, ils ont vraiment une espèce de réactivité qui est beaucoup plus lente. Ça fonctionne, mais vous pouvez pas vous dire, moi je vois que le baril va péter à la hausse, donc j'achète des pétrolières. Si vous voulez jouer la cassure du baril à la hausse, faut acheter du baril, faut acheter du pétrole brut, du futur, point barre. Si vous voulez jouer cette tendance de fond, si vous voulez dire que le baril il va monter à 150 dans les 3 ans qui viennent, oui, alors là, vous pouvez acheter des pétrolières parce que vous aurez des dividendes, parce que vous aurez une stabilité, une volatilité moindre que sur le futur pétrole. Et donc, du coup, vous pourrez jouer cette tendance de fond et ça va se corréler sur le long terme. Mais c'est pas de l'immédiat, c'est pas du 1 pour 1. Il faut oublier cette théorie-là, ça n'existe pas dans les pétrolières. Il y a trop de contraintes économiques, de contraintes de raffinage, des choses qu'on doit construire autour. Modifier, transporter et travailler sur la matière première pour qu'on puisse dire il y a un rapport de 1 pour 1. C'est clair que si le baril est très cher sur le long terme, toutes les pétrolières vont en bénéficier d'une manière ou d'une autre. Et si le baril se pète la gueule à 1, forcément, ça va être moins drôle. Mais par contre, l'inflexion, la réaction directe est quand même un tout petit peu différente. Mais comme je le disais par rapport aux stations d'essence dont je parlais au tout début de ce mini commentaire, eh bien, quand le pétrole se pète la figure, là, vous aurez une réactivité qui sera beaucoup plus immédiate. Parce qu'on a cet effet panique, cet effet peur, cet effet, oulala, ça tourne vinaigre, donc faut tout vendre. Et là, ça va beaucoup plus vite. En revanche, à la hausse, ça marche aussi. Ça prend plus de temps, mais ça marche aussi. Voilà, c'est tout ce qu'il y avait à dire ce matin. Bon, il y a encore plein d'autres choses à dire. C'est un marché qui est un petit peu mou quand même par moment, mais il y a énormément plus de nouvelles qu'avant, plus de thématiques à aborder. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Les cryptos ont l'air en bonne forme, le pétrole a l'air en super forme, le marché américain a l'air en super forme, c'est moins évident sur la Chine. À partir de maintenant, on va commencer à parler du meeting de la Fed qui aura lieu mardi et mercredi prochain, avec un discours mercredi soir la semaine prochaine de Monsieur Powell. On va commencer à se concentrer là-dessus, ça nous donnera une bonne raison d'attendre quelque chose. Et puis d'ici là, je vous souhaite une excellente journée. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Suisse Côte Suisse et de liker cette vidéo, de partager ça un peu partout si vous voulez. Et puis de revenir demain pour une nouvelle édition, la dernière édition de la semaine. Passez une très bonne journée, à demain. Bye bye.